les scientifiques laissés à eux-mêmes font de très belles choses, mais à un certain moment, ils peuvent très bien ne faire jouer que des critères de curiosité. Alors je parlais tout à l'heure des clochards. Moi j'ai vécu ça dans un cas très très concret où j'avais des étudiants en médecine et troisième année de médecine, donc la fin du baccalauréat, et certains m'ont dit, tiens, on va essayer d'aller voir ce qui se passe dans les tests de la troisième phase de test des médicaments. Donc pour qu'un médicament soit reconnu, soit commercialisé, il faut différentes phases. Et une des phases, c'est l'expérimentation humaine, doit se faire dans un contexte très très surveillé. Et entre autres, il faut un consentement libre, éclairé de ceux qui se soumettent à la médication. Il faut que les protocoles soient parfaitement connus, dans un cas parfaitement contrôlé, etc. Bon. Les étudiants m'ont dit, tiens, on aimerait bien voir comment ça se passe. Et certains disent, on aimerait bien participer nous-mêmes à certaines expériences. Enfin bon. Donc, ils sont recrutés par une université à Bruxelles qui fait des expérimentations en phase 3. Et ils se rendent compte qu'en fait, ils arrivent à deux. Et toute la salle où les cobayes se trouvent, entre guillemets, il y a uniquement des SDF. Et aucun ne comprend le français, ils ne peuvent ni lire ni écrire le français. Ils ont les papiers du protocole en main, on leur a donné, on leur a dit, voilà, vous avez une heure pour les lire. Ils signent, parce qu'ils ont besoin d'argent, puisque c'est rémunéré, etc. Et ils vont participer à ce genre de test. Bon, alors, les professeurs qui participaient à ce genre d'expérience ont été interpellés par les étudiants. Et l'argument, c'est, oui, mais enfin, vous comprenez bien, il faut qu'on teste nos médicaments, enfin, c'est... et puis, bon, de toute façon, eux, vous savez, ils n'ont pas grand-chose à perdre, ils gagneront un peu d'argent. Bon, et ce qui compte, en fait, il faut qu'on sache ce qui se passe. Et l'étudiant a dit, mais moi, je comprends, moi, je suis étudiant en médecine, je comprends pas bien les risques, etc. Oui, mais bon, il faut que la recherche avance. Alors ça, c'est typique. Et la recherche peut aussi se mouvoir avec ses propres critères, sa propre nécessité. Mais ça peut déraper. Ça peut déraper. Et les scientifiques qui ne suivent que les critères de la bonne science ne produisent pas nécessairement des choses que la société voudrait. Faire de la bonne science, entre guillemets, c'est pas nécessairement faire des choses éthiques. Et je vous donne un petit exemple de ça. Dans les années 80, on a découvert dans des publications en médecine, des tas de données qui, en fait, avaient été obtenues justement par le laboratoire de Mengele à Auschwitz. Donc, en 84, on a trouvé dans un grand journal de médecine des données sur des jumeaux qui venaient de Auschwitz, en fait. Et la première réaction, ça a été de dire « Ah non, mais ça, c'est pas possible, on ne peut pas admettre ça, on ne peut pas admettre ce genre de données, parce que c'est sûrement faux. » Avec l'idée que les résultats de Mengele sont sûrement faux puisque c'était un boucher et c'était un barbare. Et ça a été la première réaction. Donc on va éliminer ça de la littérature scientifique parce que sûrement c'est faux, parce que cette médecine-là, c'est une médecine qui n'est pas correcte scientifiquement. Deuxième réaction, quelqu'un a fait remarquer que dans ce cas-là, l'expérience avait été parfaitement faite, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'erreur de statistique, l'échantillon était suffisamment grand, etc. Tout ça avec des guillemets, évidemment, parce que la manière dont on l'a obtenu, c'est affreux. Mais on s'est rendu compte que la science, la bonne science, entre guillemets, qui suivait ses propres standards, peut être parfaitement, fonctionner parfaitement scientifiquement, mais que derrière, il y a une logique qui est complètement barbare. Et donc, à partir du moment où on laisse la science toute seule avec ses propres critères, elle peut très rapidement sombrer, si elle n'est pas réinterrogée par un autre lieu, peut éventuellement sombrer dans la barbarie. Pas toujours, parce que les scientifiques sont, heureusement, il y a beaucoup de gens qui sont très humains et bon. Mais séparer radicalement la science d'autre chose, ça pourrait être aussi dangereux socialement. Alors, au niveau épistémologique, ça voudrait dire effectivement que la science, comme discours, n'a absolument rien à voir avec une théologie de la création. D'accord ? Autrement dit, et ça c'est la position que l'on trouve par exemple dans la théologie protestante de Karl Barth, par exemple, Karl Barth disait la théologie de la création n'a rien à voir avec la cosmologie physique. Hein, il faut séparer les deux. Ça, c'est de l'ordre de la révélation qui n'a rien à voir avec la science. Ça, c'est de l'ordre de la science, mais ça n'a rien à voir avec la théologie de la création. Vous voyez ? Bon. Le problème, c'est que ici, on confond tout et on sombre dans le panthéisme, mais ici, on sépare tout, mais tellement radicalement qu'on sombrerait dans l'agnosticisme ou bien dans le théisme. C'est-à-dire peut-être qu'il y a un Dieu, mais de toute façon, il n'a rien à voir avec le monde. D'accord ? Mais cette position-là est une position qui est incompatible avec la théologie chrétienne. Pourquoi ? Ben ici, elle était incompatible, concordisme incompatible, parce que c'est du panthéisme. Dieu, c'est le monde. Or, la théologie chrétienne de la création dit, non, le monde a une autonomie par rapport à Dieu. Ici, on séparerait radicalement, alors que la théologie de la création dit, non, il y a une relation entre Dieu et le monde. Et s'il y a une relation entre Dieu et le monde, alors la théologie dit quelque chose de ce monde-ci. La théologie n'est pas une pure belle histoire ou fiction, monde virtuel, si vous voulez, qui n'aurait aucun ancrage dans la vérité empirique des choses. Autrement dit, dans la théologie de la création, on a quelque chose qui à la fois met à distance le monde de Dieu, pour que le monde ait une liberté, si vous voulez, pour que le monde ait son autonomie, mais en même temps, Dieu n'est pas tellement distant du monde qu'il n'aurait plus aucun lien. Et on pourrait dire, quelque part, dans la théologie chrétienne de la création, quelque part, le monde parle de Dieu. Si on ne peut pas déduire la révélation totalement de l'observation empirique, il y a quelque chose qui, dans le monde, peut-être pas immédiatement, mais peut nous parler de Dieu, car ce monde-ci a déjà une charge théologique, si vous voulez. Un peu comme l'homme, dans sa vérité, a déjà une portée théologique, même si je n'ai pas encore fait de la théologie. Il y a quelque chose dans... la théologie chrétienne est aussi une théologie de l'incarnation. Le monde et l'homme ont une charge théologique, ont déjà une portée profonde théologique. On peut, quelque part, reconnaître certaines choses de Dieu à partir du monde. Vous voyez ? Il n'y a pas une dissociation radicale. Le problème, c'est quand on dit ça, c'est de ne tomber ni dans ceci, ni dans cela. On pourrait dire que la position chrétienne vise à distinguer, mais à maintenir l'union. Comme disait Maritain, distinguer pour unir. Distinguer sans séparation, le monde doit être distingué de Dieu, mais pas séparé de lui. De la même façon, distinguer sans séparation, mais unir sans confusion. Et c'est ça l'équilibre subtil de la théologie de la création. Unir sans confusion, séparer, distinguer sans séparation. D'accord ? Bon. Et donc, pour obtenir un mode de relation entre science et théologie qui soit homogène à une théologie de la création chrétienne, il faut quelque chose qui ne soit ni le concordisme ni le discordisme. Il faut donc un autre mode, mais qui serait conçu comment ? Eh bien, si on voit rationnellement, si on doit distinguer, mais sans séparer radicalement, il faut donc unir. Il faut distinguer, mais il faut unir. Et il faut donc unir sans confondre. Alors comment peut-on à la fois distinguer sans séparer et unir sans confondre ? La seule solution rationnelle, c'est d'une certaine manière de dire il y a une médiation. Il y a quelque chose qui se situe entre le discours scientifique et le discours théologique. L'existence de la médiation fait à la fois un effet d'union, il relie, cette médiation relie Et quand cette médiation est entre les deux, il évite que les deux s'effondrent l'un sur l'autre. Oui. Et donc, on obtient une position qui serait compatible avec une position de la théologie chrétienne de la création en pensant une médiation entre science et théologie. Alors, quelle est cette médiation? Eh bien, traditionnellement, cette médiation est justement occupée par la philosophie. Alors, pourquoi ?